Chapitre 2. Les sociétés d'ordre européennes, pouvoir et propriété. Nous allons commencer notre étude des sociétés ternaires et de leur transformation en examinant dans ce chapitre le cas des sociétés d'ordre européennes, et en particulier celui de la France. Il s'agit notamment de mieux comprendre les formes particulières que prennent les relations de pouvoir et de propriété entre les trois classes au sein de ces sociétés. Nous allons tout d'abord analyser le schéma général de justification de l'ordre trifonctionnel à l'époque médiévale. Nous verrons que le discours inégalitaire ternaire tente d'exprimer à sa façon l'idée d'un certain équilibre politique et social entre deux formes a priori plausibles de légitimité à gouverner, celle des élites intellectuelles et religieuses et celle des élites guerrières et militaires, toutes deux pensées comme indispensables pour la perpétuation de l'ordre social et de la société dans son ensemble. Nous étudierons ensuite l'évolution des effectifs et des ressources des classes nobiliaires et ecclésiastiques dans les sociétés d'Ancien Régime et la façon dont l'idéologie trifonctionnelle s'est incarnée dans des modes sophistiqués de relations de propriété et de régulation économique. Nous évoquerons en particulier le rôle joué par l'Église chrétienne comme organisation propriétaire et comme pourvoyeuse de normes à la fois économiques et financières, familiales et éducatives. Ces leçons seront essentielles pour mieux comprendre dans les chapitres suivants les conditions de la transformation des sociétés ternaires en sociétés de propriétaires. Les sociétés d'ordre, une forme d'équilibre des pouvoirs. De nombreux textes du Moyen-Âge européen, dont les plus anciens remontent autour de l'an 1000, décrivent et théorisent la division de la société médiévale en trois ordres. À la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle, les textes de l'archevêque Wulfstan de York, dans le nord de l'Angleterre, comme ceux de l'évêque Aldabéron de Laon, dans le nord de la France, expliquent ainsi que la société chrétienne doit s'organiser en trois groupes. Les oratores, ceux qui prient, le clergé, les bellatores, ceux qui font la guerre, la noblesse, et les laboratores, ceux qui travaillent et le plus souvent labourent, le tiers-état donc. Pour bien comprendre les discours alternatifs auxquels ces auteurs s'opposent, il faut bien sûr prendre en compte le besoin de stabilité des sociétés chrétiennes de l'époque, et en particulier la peur des révoltes. Il s'agit avant tout de justifier les hiérarchies sociales et de faire en sorte que les laboratores acceptent leur sort et comprennent que leur existence de bons chrétiens exige le respect de l'ordre ternaire ici-bas, et donc l'autorité du clergé et de la noblesse. De multiples textes évoquent la dureté de la vie des laboureurs, dureté jugée nécessaire pour la survie des deux autres ordres et de la société dans son ensemble, et évoque des châtiments corporels dissuasifs pour ceux qui se rebellent. Voici par exemple le récit que fait le moine Guillaume de Jumièges, au milieu du XIe siècle, d'une révolte survenue en Normandie. « Sans attendre les ordres, le comte Raoul s'empara aussitôt de tous les paysans, leur fit trancher mains et pieds, et les rendit impotents à leurs proches. Ceux-ci s'abstinrent désormais de tels actes, et la crainte de subir un sort pire encore les rendit plus prudents. Les paysans instruits par l'expérience, oubliant leurs assemblées, retournèrent en hâte à leur charrue. » Mais le discours ternaire s'adresse aussi aux élites. Pour l'évêque Adalbéron de Laon, il s'agit de convaincre les rois et les nobles de gouverner avec sagesse et retenue, et de suivre pour cela les conseils des clercs, c'est-à-dire les membres du clergé séculier et régulier, qui, outre leurs fonctions proprement religieuses, remplissent souvent de multiples autres tâches indispensables auprès des princes, lettrés, scribes, envoyés, comptables, médecins, etc. Dans l'un de ses textes, Aldabéron décrit ainsi une étrange procession où le monde fonctionnerait à l'envers, où les paysans porteraient la couronne et serait suivi du roi, des guerriers, des moines et des évêques, marchant nus derrière la charrue. Il s'agit d'illustrer ce qui risquerait d'arriver si le roi laissait se développer les débordements des guerriers et décidait d'en finir avec la logique d'équilibre entre les trois ordres, qui seul permet d'apporter la stabilité nécessaire à la société. Il est intéressant de noter qu'Aldabéron s'adresse également et explicitement aux membres de son propre ordre, le clergé, et en particulier aux moines clunisiens qui sont tentés au début du XIe siècle de prendre les armes et d'affirmer leur pouvoir militaire face aux guerriers laïcs. Empêcher les membres du clergé de porter les armes apparaît d'ailleurs comme un souci récurrent dans les textes médiévaux, les membres des ordres monastiques étant souvent les plus indociles. Autrement dit, l'enjeu du discours ternaire est plus complexe et plus subtil qu'il n'y paraît. Il s'agit de pacifier les élites autant que d'unifier le peuple. L'objectif n'est pas seulement que les classes dominées acceptent leur sort. Il faut également que les élites acceptent de se séparer en deux groupes distincts, la classe cléricale et intellectuelle d'un côté, la classe guerrière et noble de l'autre, et que chaque groupe s'en tienne strictement à son rôle. Les guerriers doivent se comporter en bons chrétiens et écouter les sages conseils des clercs qui, de leur côté, ne doivent pas se prendre pour des guerriers. Il s'agit d'une forme d'équilibre des pouvoirs et d'auto-limitation des prérogatives de chaque groupe, ce qui manifestement n'a rien d'évident dans la pratique de l'époque. L'historiographie récente a également insisté sur l'importance de l'idéologie trifonctionnelle dans le lent processus d'unification des statuts au sein de la classe des travailleurs. Car théoriser une société en trois ordres ne consiste pas simplement à justifier l'autorité des deux premiers sur le troisième. Il s'agit également d'affirmer l'égale dignité de tous les travailleurs au sein du troisième ordre, et donc, dans une certaine mesure, de s'opposer à l'esclavage et au servage. Pour Mathieu Arnoux, auteur du « Temps des laboureurs », c'est précisément l'affirmation du schéma trifonctionnel qui permet la fin du travail forcé et l'unification du monde du travail en un seul ordre, et qui rend possible l'imposant essor démographique médiéval, 1000-1350, grâce à un accroissement de l'intensité et de la productivité du travail des laboureurs et des défricheurs, enfin célébrés et valorisés en tant que travailleurs libres, et non plus traités comme une main-d'œuvre divisée et en partie servile. Autour de l'an 1000, tous les textes littéraires et ecclésiastiques montrent que l'esclavage est encore très présent en Europe occidentale. À la fin du XIe siècle, les esclaves et les serfs représentent encore une part significative de la population en Angleterre et en France. Vers 1350, en revanche, l'esclavage n'apparaît plus qu'à l'état résiduel sur les territoires ouest européens, et le servage lui-même semble avoir quasiment disparu, tout du moins sous ses formes les plus dures. Une reconnaissance plus forte de la personnalité juridique des laboureurs, de leurs droits civils et personnels, comme de leurs droits de propriété et de mobilité, se met progressivement en place entre 1000 et 1350, au fur et à mesure que les discours célébrant les trois ordres se généralisent. Il existe en pratique un continuum entre les différentes formes d'esclavage, de servage et de travail libre, si bien qu'il est impossible d'être parfaitement précis sur ce point. Je reviendrai plus loin sur ces questions de définition, notamment dans le chapitre 6 consacré aux sociétés esclavagistes. Pour Arnoux, le processus de promotion du travail libre apparaît donc déjà bien engagé avant même la Grande Peste de 1347-1352 et la stagnation démographique des années 1350-1450. Ce point chronologique a son importance, dans la mesure où la rareté relative du travail consécutive à la Grande Peste a souvent été citée pour expliquer la fin du servage en Europe occidentale, et parfois aussi pour expliquer son apparent durcissement à l'est du continent, ce qui n'est pas très cohérent. À l'inverse, Arnoux met l'accent sur les facteurs politico-idéologiques et en particulier sur l'importance du schéma trifonctionnel. Il insiste également sur les institutions concrètes permettant le développement de fructueuses coopérations productives, jachères, dîmes, marchés, moulins, coopérations rendues possibles par des alliances nouvelles entre les différentes classes de la société ternaire, impliquant à la fois les laboureurs, véritables artisans silencieux de cette révolution laborieuse, les organisations ecclésiastiques, la dîme payée au clergé permettant ainsi de financer le grenier communal, les premières écoles et l'assistance aux nécessiteux, et la classe seigneuriale, impliquée notamment dans le développement et la régulation des moulins à eau et l'extension des cultures. C'est ce processus vertueux qui aura permis, au-delà des crises, un accroissement considérable de la production agricole et de la population ouest-européenne entre 1000 et 1500. Progression qui a laissé une trace profonde dans les paysages et l'évolution des forêts et des défrichements, et qui a été de pair avec la fin graduelle du travail servile. L'ordre trifonctionnel, la promotion du travail libre et le destin de l'Europe. D'autres historiens médiévistes avaient déjà souligné le rôle historique de l'idéologie trifonctionnelle dans l'unification des statuts du travail. Par exemple, pour Jacques Le Goff, si le schéma trifonctionnel a fini par s'épuiser au XVIIIe siècle, c'est précisément parce qu'il a été victime de son succès. La théorie des trois ordres aurait permis, entre l'an 1000 et la révolution de 1789, d'assurer la promotion du travail comme valeur. Une fois cette tâche historique accomplie, l'idéologie ternaire pouvait disparaître et laisser place à des idéologies égalitaires plus ambitieuses. Arnoux pousse l'analyse plus loin. Il voit dans l'idéologie trifonctionnelle et dans le processus européen d'unification du travail l'un des principaux facteurs expliquant comment la chrétienté latine, qui autour de l'an 1000 apparaissait assaillie de toutes parts, vikings, sarrasins, hongrois, et affaiblie face aux autres ensembles politico-religieux, empire byzantin et monde arabo-musulman notamment, s'apprêtait au contraire, vers 1450-1500, à conquérir le monde, à la tête d'une population nombreuse, jeune et dynamique, et d'une agriculture assez productive pour nourrir les débuts de l'urbanisation comme les expéditions guerrières et maritimes à venir. La fragilité des données disponibles empêche malheureusement toute preuve définitive en la matière, et il n'est pas interdit de penser que certaines de ces hypothèses reposent sur une vision un peu trop idyllique de la société ternaire médiévale européenne et des coopérations mutuellement profitables qui s'y nouent. Nous verrons plus loin qu'il existe bien d'autres facteurs contribuant à expliquer les spécificités de la trajectoire européenne. Il reste que ces travaux ont l'immense mérite d'insister sur la complexité des enjeux politico-idéologiques autour du schéma trifonctionnel et de permettre de mieux rendre compte des positionnements politiques et intellectuels des uns et des autres au cours de cette longue histoire. On pense par exemple à l'abbé Sieyès, membre du clergé, mais élu comme représentant du tiers-État aux États généraux, est bien connu pour sa brochure publiée en janvier 1789 et débutant par la formule fameuse « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À devenir quelque chose. » Après avoir dénoncé dès les premières pages les travers de la noblesse française, comparable selon lui aux castes des Grandes Indes et de l'Ancienne Égypte, Sieyès ne s'étend pas sur la portée de la comparaison, mais ce n'est visiblement pas un compliment, il pose sa revendication principale que les trois ordres que le roi Louis XVI vient de convoquer et qui doivent se réunir à Versailles en avril 1789 puissent siéger ensemble, avec autant de voix pour le tiers-État que pour les deux autres ordres réunis, soit 50% des voix pour le tiers-État. La demande est révolutionnaire, puisqu'il était prévu que les trois ordres se réunissent et votent séparément, ce qui garantissait aux ordres privilégiés deux voix sur trois en cas de désaccord entre les ordres. Cette majorité automatique, offerte aux privilégiés, était jugée inacceptable par Sieyès, dès lors que le tiers-État représentait, d'après ses propres estimations, entre 98% et 99% de la population totale du royaume. On notera cependant qu'il était prêt à se contenter de 50% des voix, au moins pour un temps. Finalement, dans le feu des événements, c'est sur son initiative que les représentants du tiers-État proposèrent en juin 1789 aux deux autres ordres de les rejoindre et de former ainsi une assemblée nationale. Quelques représentants du clergé et de la noblesse acceptèrent la proposition, et c'est cette assemblée, principalement composée des représentants du tiers-État, qui prit le pouvoir et le contrôle de la Révolution, et qui vota lors de la nuit du 4 août 1789 l'abolition des privilèges des deux premiers ordres. Mais quelques mois plus tard, Sieyès exprima son profond désaccord avec les modalités concrètes d'application de ce vote historique, en particulier concernant la nationalisation des biens du clergé et l'abolition de la dîme ecclésiastique. Sous l'ancien régime français, celle-ci était un impôt pesant sur le produit du sol et des animaux, avec un taux variant suivant les cultures et les coutumes locales et qui était généralement compris entre 8% et 10% de la valeur de la récolte, le plus souvent payée en nature. La dîme pesait sur toutes les terres, y compris en principe celle de la noblesse. Contrairement à la taille, impôt royal dont les nobles étaient exemptés. Et ces recettes étaient versées directement aux organisations ecclésiastiques avec des règles de partage complexes entre paroisses, évêchés et monastères. La dîme avait des origines très anciennes, puisqu'elle s'était progressivement substituée au versement volontaire des fidèles à l'Église dès le haut Moyen-Âge, avec l'appui du pouvoir royal et nobiliaire carolingien qui, au 8e siècle, lui donna force légale et la transforma en paiement obligatoire. Cet appui sera confirmé par toutes les dynasties suivantes, scellant ainsi l'union de l'Église et de la couronne et l'alliance indéfectible entre le clergé et la noblesse. Il s'agissait, avec les revenus des biens de l'Église, de la principale ressource permettant aux institutions ecclésiastiques de rétribuer le clergé et de financer ses activités. C'est cette institution politico-fiscale centrale qui transformait de facto l'Église en quasi-État, disposant de moyens considérables pour réguler la société et pour remplir ses fonctions d'encadrement tout à la fois spirituel, social, éducatif et moral. Pour Sieyès, et Arnoux tente à lui donner raison sur ce point, l'abolition de la dîme ecclésiastique revenait non seulement à empêcher l'Église de jouer ce rôle, mais aussi à transférer des dizaines de millions de livres tournois au bénéfice des riches propriétaires fonciers privés, bourgeois ou nobles. Tout cela au détriment des laboureurs les plus pauvres, qui selon lui étaient souvent les premiers bénéficiaires des greniers collectifs, des dispensaires, des écoles et autres aides sociales et biens publics financés par l'Église. On pourrait faire remarquer que les résultats éducatifs et sociaux obtenus par les institutions ecclésiastiques catholiques françaises du XVIIIe siècle paraissent somme toute relativement modestes par comparaison à ceux obtenus par les structures étatiques et communales des époques ultérieures. On pourrait également noter que le produit de la dîme finançait aussi le train de vie d'évêques, de curés et de moines dont le premier souci n'était peut-être pas toujours le bien des plus pauvres. Et qu'à l'inverse, la dîme grevait souvent les conditions de vie des plus modestes et pas seulement celles des propriétaires aisés. D'ailleurs, rien dans son fonctionnement ne permettait de mettre davantage à contribution les plus riches. La dîme était un impôt proportionnel et non progressif. Et à aucun moment, les membres du clergé ne proposèrent qu'il en aille autrement. Mais l'objet ici n'est pas de trancher ce débat ou de rejouer la controverse entre l'abbé Sieyès, qui aurait préféré que l'on ménage le clergé et que l'on mette davantage à contribution la noblesse, et l'anticlérical marquis de Mirabeau, qui s'illustra dans des discours réclamant la fin de la dîme et la nationalisation des biens de l'Église, et qui était nettement moins offensif quand il s'agissait d'exproprier la classe nobiliaire. Il s'agit simplement d'illustrer la complexité des relations tout à la fois d'échange et de domination qui se nouent entre groupes sociaux au sein des sociétés ternaires, complexité qui permet de donner prise à des discours contradictoires et néanmoins plausibles. Pour Sieyès, il aurait manifestement été possible et souhaitable de mettre fin aux privilèges les plus indus des deux ordres dominants, tout en maintenant un rôle social important, et donc des ressources fiscales et patrimoniales appropriées, pour l'Église catholique notamment en matière éducative. Ces débats sur le rôle des cultes religieux, la diversité des modèles éducatifs et leur financement jouent toujours un rôle essentiel dans de nombreuses sociétés modernes. Aussi bien d'ailleurs dans les sociétés qui ont adopté un régime supposément républicain et laïque, comme la France, que dans celles qui ont conservé le principe monarchique ou une forme de reconnaissance officielle des cultes, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. Et nous y reviendrons en temps utile. À ce stade, notons simplement que ces débats ont des origines anciennes qui remontent à la structuration trifonctionnelle de l'inégalité sociale.